Focus. Se protéger des émotions destructrices. Méditer pour se décontaminer. Les Indiens, lors de mon trek avec Madeleine, faisaient preuve d'un sang-froid exceptionnel. Sans doute était-ce dû à leur culture bouddhiste qui les éduque à être moins en prise avec les émotions toxiques qui surviennent, notamment dans des situations difficiles. Ils privilégient alors la spiritualité à la sur-émotionnalité. Vilko, le rescapé du K2, qui n'est pas bouddhiste à ma connaissance, me disait qu'à travers ses différentes expéditions dans les montagnes, ce qu'il cherche avant tout, c'est le sens de la vie. Il faudrait, selon lui, se poser les bonnes questions. Quel est ton désir réel à vouloir gravir des montagnes si hautes? Qu'est-ce que tu cherches à atteindre en jouant ainsi avec la mort? Le sommet n'est pas une fin en soi. Que veux-tu accomplir dans ta vie? En répondant à ces questions, on peut atteindre un niveau spirituel élevé, bien plus puissant que le mental et l'émotionnel, et qui nous rend moins perméables à des émotions toxiques, à des ambiances émotionnelles chargées négativement. Pour mieux comprendre cette philosophie de vie, je suis allé interroger Eric Zecchini, l'auteur de « L'esprit du bouddhisme en entreprise ». Disciple de Lama Dennis, et pendant 4 ans, vénérable du Sangha Loka de Lyon, un centre de méditation où il a pratiqué, dans la tradition tibétaine, la méditation de pleine présence et étudié le Dharma, enseignement du Bouddha, il est devenu instructeur de méditation et enseignant du Dharma. En tant que disciple de Lama Dennis, était-il moins contaminable que les autres par les émotions dites toxiques? Les traditions authentiques véhiculent toutes le même message, qui pourrait se résumer à la maxime bien connue du temple de Delphes. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Dans le bouddhisme, cette connaissance passe par l'observation de ses propres mécanismes psychiques, notamment émotionnels. La voie royale en est la méditation. Méditer, terriblement mal traduit, consiste simplement à s'asseoir tranquillement et à observer en conscience ce qui se passe en nous. Et quoi qu'il advienne, le méditant accueille ses émotions, qu'elles soient considérées comme négatives, par exemple la colère, ou positives, par exemple la gratitude, avec bienveillance et sans jugement. Nous regardons alors passer nos pensées, comme nous regarderions des nuages traverser le ciel. Dès lors, nous nous rendons compte que ces pensées, ces idées, ces sensations, ces émotions, auxquelles nous attachions tant d'importance, sont en fait des phénomènes grossis, agrandis, amplifiés, afin que nous y portions attention. Mais au final, les nuages sont-ils autre chose que de la vapeur d'eau? Ce qui compte réellement, c'est le message que les émotions portent, pas son emballage. Comprenez les manifestations spectaculaires de l'émotion en elle-même. Cette distanciation nous apporte un premier calme mental, déjà salvateur, et commence à amoindrir notre sempiternel ego. Dès lors, les mécanismes de l'émotion se clarifient, et les liens inconscients, qui jusqu'alors les enchaînaient à nos expériences de vie, remontent à la conscience. Si nous revenons un instant sur la colère, son apparition nous informe que quelque chose ne nous convient pas. Nous conservons et analysons cette information au regard de notre propre histoire, mais pour autant, nous ne nous mettons pas dans des états pas possibles. Aucune tempête hormonale ne vient troubler notre comportement ou l'horizon de nos décisions. Nous nous apercevons même que certaines émotions nous sont néfastes. La jalousie, la rancœur, la haine, elle n'apporte que malheur et mal de vivre. Ainsi explorons-nous, à travers la méditation et les retraites solitaires qui nous ont fait réfléchir sur notre isolement existentiel, nos névroses et nos peurs, calmement, même si, il faut l'avouer, cela ne se fait pas sans douleur. C'est pourquoi dans la tradition bouddhiste, nous devons être disciples d'un maître qui, lui, a déjà emprunté ce chemin et en est sorti victorieux. Le maître nous enseigne la théorie et la pratique. L'une est faite pour éclairer l'autre. Mais rassurez-vous, Il n'y a en fait pas de règle dans le sens où l'éveil ultime peut se trouver dans un seul sourire ou dans la chute automnale d'une feuille d'arbre. Il pourrait se résumer à la compréhension de ce que nous sommes vraiment. Une nature saine et fondamentale, non dissociée de ce qui nous entoure. Dans cet état de conscience, les émotions ne sont plus ni bénéfiques ni nuisibles. Les passions, au lieu de troubler l'esprit, l'embellissent, et tout ce qui pouvait être vu de façon négative est transmué en intelligence primordiale. Et il explique. Dans le bouddhisme dit du grand véhicule, le Mahayana, toutes nos pratiques sont, sans aucune appropriation par l'ego, dédiées au bien de tous les vivants. Nous souhaitons donc que toutes les créatures de l'univers fassent l'expérience du calme mental et de l'éveil. Nous ne sommes ni fatalistes ni passifs, bien au contraire. Nous savons simplement que l'agitation ne sert à rien, qu'être trop démonstratif alimente notre propre ego, mais ne nourrit en rien nos frères humains. Nous comprenons que la moindre de nos pensées, la moindre de nos actions ou comportements peut amorcer un enchaînement d'effets sans fin sur des échelles de temps gigantesques. C'est ce que nous appelons le karma. Et c'est pourquoi nous nous efforçons de réfléchir et de garder notre sang-froid dans les pires des situations. Dans ces moments-là, le bouddhiste aura toujours un regard, une parole ou un geste bienveillant, qui peut être un don précieux pour les êtres en souffrance qui ont été contaminés par la peur ou l'angoisse. De ces instants propices à la contagion émotionnelle, nous en rencontrons plusieurs au cours de notre vie. Si vous les considérez comme des terrains d'entraînement de votre esprit pour atteindre l'éveil, vous serez alors moins contaminé par eux. Dans la foulée, j'ai demandé à Eric s'il avait un exercice de méditation pour chasser les émotions toxiques de notre esprit. Selon lui, en cas de stress aigu, il est préférable de se reconnecter avec la nature, celle avec un grand N. Ainsi, une marche au bord de la mer, sur les berges d'une rivière, au cœur d'une forêt, ou même dans un parc urbain, seront bien plus profitables. Rien n'empêche alors d'écouter le silence, et peut-être d'y percevoir sa propre confusion intérieure. C'est aussi une forme de méditation immédiatement disponible, sans chichi et sans décorum. Les maîtres expliquent que la solution est si proche et si simple que c'est pour cela que nous avons du mal à la mettre en place. Qu'en dit la science? Depuis le début des années 2000 et le Big Bang des sciences contemplatives, dont l'un des axes majeurs est l'étude des effets de la méditation sur les mécanismes émotionnels, des centaines d'études en psychologie et en neurosciences ont été publiées, montrant les bénéfices émotionnels à méditer en pleine conscience. Mindfulness. Parmi les chercheurs pionniers en la matière, on retrouve les neuroscientifiques Richard Davidson, professeur de psychologie à l'Université du Wisconsin, et Antoine Lutz, directeur de recherche à l'INSERM, qui n'ont cessé de mener ensemble des expériences sur des méditants experts, ayant au moins 10 000 heures de pratique à leur actif, au premier rang desquels Mathieu Ricard, le célèbre moine bouddhiste français qui accepta de jouer pour eux le rat de laboratoire, passionné qu'il est lui-même par ce type de recherche. En enregistrant, par des examens d'électroencéphalographie et d'imagerie cérébrale, l'activité du cerveau de tous ces méditants expérimentés, les chercheurs ont ainsi relevé, lors de l'entrée en pleine conscience, une diminution de l'activité du cortex insulaire et de l'amygdale, deux aires cérébrales impliquées dans l'apparition de l'anxiété et de la peur. Ainsi, par la pratique méditative, les circuits permettant de canaliser les émotions se modifieraient, s'harmonisant de manière quelquefois spectaculaire. Pour Sarah Lazar, professeure en psychiatrie au Massachusetts General Hospital et de psychologie à la Harvard Medical School, la méditation peut littéralement changer, fonctionnellement et structurellement, notre cerveau, et notamment le cerveau émotionnel. Dans une première étude, ses collègues et elle ont observé chez des personnes méditant environ 40 minutes par jour depuis plusieurs années un épaississement du tissu cérébral du cortex préfrontal gauche, une aire impliquée notamment dans les processus émotionnels et le sentiment de bien-être. Et dans une autre étude, chez 16 personnes, suivant un programme de méditation en pleine conscience pendant 8 semaines, ils ont constaté un grossissement de l'hippocampe, qui joue un rôle essentiel dans l'équilibre émotionnel, et un rétrécissement de l'amygdale. Récemment, Antoine Lutz et son équipe ont également pu observer que méditer en pleine conscience permet de renforcer la connectivité entre l'amygdale et le cortex préfrontal ventromédian, une partie du cerveau directement impliquée dans la régulation émotionnelle. Un faisceau de preuves, qui ne fait que grossir, démontrant que la méditation est un réel pare-feu aux émotions toxiques. Ainsi apparaît-il également que les méditants experts, dans des situations socialement stressantes, exemple parler en public, sécrètent moins d'hormones de stress, et que méditer en pleine conscience permettrait d'augmenter ses chances de sortir d'une dépression et diminuerait le risque de rechuter d'environ 40%. La méditation de pleine conscience serait ainsi tout aussi efficace que les antidépresseurs, les effets secondaires en moins. Et méditer en pleine conscience peut s'apprendre dès le plus jeune âge. Une étude menée auprès de 408 écoliers belges issus de 24 classes de 5 écoles différentes dans le secondaire, âgés de 13 à 20 ans, dont la moitié suivait un programme de méditation de pleine conscience de 8 semaines, l'autre moitié non, a montré que pendant ces 8 semaines, les premiers montraient moins de signes d'anxiété et de stress que les autres, et que les bénéfices du programme de méditation étaient encore forts 6 mois après la fin du programme. Ce qui suggère que la mise en place de ce type de séminaire en milieu scolaire pourrait aider à réduire et prévenir la dépression chez les adolescents. Dans nos vies de tous les jours, la chercheuse Sarah Lazar recommande de pratiquer la méditation 30 à 40 minutes par semaine avec un professeur et 5 à 45 minutes par jour seul. Ce qui compte pour être moins contaminé par les émotions toxiques, c'est la régularité. Le courage, un pare-feu aux émotions néfastes. Nando, Vilko, Mike, ou plus récemment, le lieutenant-colonel Arnaud Beltram, ce gendarme de 45 ans qui a donné sa vie pour sauver celle d'une femme prise en otage, pour braver cette loi de la nature qui nous pousse à fuir tout danger imminent, ont, eux, fait appel à leur courage. Mais qu'est-ce que le courage? Il ne s'agit pas, selon la science, d'un trait de personnalité. Derrière ce mot se cachent en réalité plusieurs concepts, dont le plus étudié est la capacité de pouvoir et de vouloir réguler ses émotions, et précisément la peur, en suivant un objectif précis et, qui plus est dans certains cas, altruiste. Des chercheurs israéliens sont parvenus à tracer le courage dans le cerveau humain. Dans une étude en laboratoire datant de 2010, il avait été fait appel à des volontaires qui avaient peur des serpents, mais voulaient surmonter leur phobie. Ils étaient allongés, sans pouvoir bouger, sur une table d'IRM, afin d'enregistrer l'activité de leur cerveau. Et une sorte de tapis roulant avait été installé près d'eux, sur lequel reposait un serpent vivant de 1,5 mètre de long, attaché par une bande velcro, histoire d'éviter tout accident. Le tapis roulant, et donc le serpent, pouvait se déplacer d'avant en arrière sur simple pression d'un bouton placé entre les mains des volontaires. Appuyé sur le bouton « avance » amenait le serpent près de leur tête, ce qui montrait leur volonté de surmonter leur peur. Et l'IRM révélait que chaque fois que le tapis avançait, une région du cerveau, appelée cortex singulaire antérieur subgénual, SGACC, s'activait. D'où la conclusion qu'il s'agissait très probablement du siège du courage. Le courage, ça s'apprend. Cette capacité à ne pas se laisser contaminer par sa peur, ou dans d'autres circonstances par celle des autres, et faire acte de courage, je l'ai étudié de près avec le chercheur Gabriel Sala, du Boston College, auprès de gendarmes du GIGN dont la devise est s'engager pour la vie, notamment la vie des autres. 9 membres de leur force d'intervention se sont prêtés à nos recherches. Les résultats, publiés en 2016, montrent que les actes de bravoure de ces hommes d'exception passent, là encore, par une régulation émotionnelle de l'anxiété en situation extrême. Pour ce faire, ils optent préférentiellement pour une stratégie de régulation émotionnelle dite de la réévaluation cognitive, une méthode très performante pour calmer les émotions négatives. Elle se base sur la capacité d'un individu à réinterpréter une situation pour ainsi moduler sa réponse émotionnelle. Par exemple, à la vue d'un accident au bord de l'autoroute qui pourrait vous déstabiliser lors de votre conduite, plutôt que de vous focaliser sur les images choquantes du sang sur l'asphalte et de la souffrance des blessés, vous pouvez vous efforcer d'adopter le point de vue d'un pompier chargé d'apporter les premiers soins et qui doit absolument garder son sang-froid. Cela aura pour effet principal de réduire l'expérience subjective des émotions négatives en vous poussant à conduire vous-même avec sang-froid, sans pour autant nier les faits. Tout est finalement une question de perspective émotionnelle. Il est intéressant de noter que la régulation de la peur semble être devenue un réflexe, presque une seconde nature, pour ces opérationnels du GIGN qui développent des automatismes mentaux et physiques leur permettant de s'adapter immédiatement à la situation extrême. Le courage, ça s'apprend donc. Le courage est-il contagieux ? Le pasteur évangéliste américain Billy Graham clamait que le courage est contagieux. Il suffit qu'un homme en fasse montre pour que d'autres relèvent la tête. Mais Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, remarque « Le courage est contagieux, certes, mais la peur aussi. » Et lequel des deux l'emporte ? Souvent, il faut l'avouer, c'est la peur. Prenez par exemple Nando, qui avait vécu un petit moment de solitude quand il avait tenté de recruter des courageux pour aller chercher avec lui les secours. Rares étaient en effet ses compagnons d'infortune prêts à le suivre dans son périple fou à travers les montagnes, tétanisés qu'ils étaient par la peur de mourir. Ainsi sommes-nous plus nombreux, que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle, à préférer envoyer l'autre sur le front plutôt que d'y aller nous-mêmes, et aussi de le suivre. Et souvent, nous manquons de courage dans des situations qui n'en demandent même pas, puisque 9 des peurs sur 10 que nous ressentons sont non fondées, comme je l'ai déjà expliqué dans « Contre nos peurs, changeons d'intelligence », parce qu'il est difficile de s'extirper de l'émotion de groupe toute puissante qui nous pousse à nous conformer et dont nous avons déjà parlé. Pour trouver du courage, une chose marche vraiment, à savoir développer son intelligence émotionnelle, un ensemble de capacités mentales que je traite depuis un certain temps en long et en large dans des articles, livres et chroniques. Un individu doué de cette forme d'intelligence est capable de dompter son anxiété pour prendre, quand il le faut, des risques modérés dans sa vie. Et il prend de meilleures décisions que la moyenne, surtout lorsque la décision est à enjeu. En entreprise, nos études révèlent par exemple que parmi les managers qui sont payés pour décider, rares sont pourtant les experts en intelligence émotionnelle. Moins de 1% d'entre eux, à vrai dire. Par chance, ce type d'intelligence se travaille. Un lieu sûr. Mais qu'il s'agisse de la corde qui relie tant matériellement qu'émotionnellement Éric Decamp à ses amis alpinistes, ou de l'élastique invisible connectant affectivement Nando à Roberto pendant leur traversée de la cordillère des Andes, l'important dans nos vies est qu'un lien affectif se crée concrètement avec les personnes qui comptent et que nous nous efforcions de l'entretenir. Chaque fois que nous éprouvons un coup dur, rien qu'en pensant à elles, cela nous rebooste, nous donnant suffisamment de dynamisme pour relever la tête. Parmi ces gens qui comptent, il y a d'abord la famille, biologique ou d'adoption, au sens large du terme. Souvenez-vous, dans tous les témoignages que j'ai recueillis, elle revient comme une valeur psychique refuge. Quiconque a suivi des séances de MDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, a conscience de ce que signifie cette expression. Au centre de cette méthode thérapeutique, dont l'objectif est de vous décontaminer d'émotions toxiques incrustées en vous suite à des expériences déstabilisantes, voire traumatisantes, se trouve une technique dite de renforcement, appelée le lieu sûr. Assis face à son thérapeute, le patient est invité à se remémorer un endroit où il s'est senti, dans sa vie, le plus au calme et le plus en sécurité. Il lui faut ensuite essayer de s'y rendre mentalement et de se focaliser sur toutes les sensations agréables émanant de l'endroit en question. Ainsi est-il amené à se concentrer sur des choses plaisantes qu'il visualise mentalement, par exemple les feuilles des arbres, les odeurs enivrantes qu'il flaire, l'humus, le bon goût dans la bouche qu'il a, café, les doux sons tactiles qu'il entend et ressent simultanément, brise du vent sur la peau. La résurgence de tous ces détails sensoriels lui permet de vivre la scène presque comme s'il y était. Une fois le patient embarqué mentalement, le thérapeute lui demande de choisir un mot, un seul, qui pourrait résumer la sensation générale ressentie, l'essence même de toutes ces expressions sensorielles. Ce mot peut être par exemple « sérénité », « calme », « amour », « confiance », « fierté », « paix ». Il est alors invité à se concentrer exclusivement sur le mot. Puis le thérapeute lui demande de continuer à penser à la fois au mot et au lieu sûr, tout en fermant les yeux, m'explique Anne Dumont, psychiatre agréée EMDR à Lyon. Ce lieu sûr, ou valeur psychique refuge, correspond pour beaucoup d'entre nous à un souvenir d'enfance ou de famille agréable. Me concernant, mon lieu sûr à moi, c'est quand, enfant, ma grand-mère me grattait le dos pendant des heures sur le canapé entre midi et deux, après l'école, ou le soir quand je dormais chez elle pendant les vacances scolaires. Aussi, vous l'aurez compris, cette valeur psychique se travaille au quotidien, en emmagasinant des moments de vie agréables avec nos proches. Une attention de chaque instant qui permet de percevoir à temps l'amorce d'un déséquilibre et de l'enrayer, et qui se joue quotidiennement de multiples manières, comme le disait Éric Decamp. Voilà pourquoi les interactions affectives les plus infimes, ou qui semblent anecdotiques avec nos proches, souvent dans l'enfance, peuvent se révéler plus tard des ressources exceptionnelles nous permettant d'être résilients. Prenez par exemple l'écriture de ce chapitre, qui s'est faite à deux mains, les miennes et celles, en l'occurrence un doigt, de ma fille Elisa, 5 ans, qui souhaitait absolument m'aider dans mon travail. Face à tant d'entrain, je lui dénichais, dans l'improvisation la plus totale, un job, celui d'appuyer sur la touche « espace » après chaque mot que je saisissais sur le clavier. Certes, j'ai mis très longtemps à le finir, ce passage du livre, et j'ai eu quelques moments d'angoisse quand elle n'a pas manqué, par de fausses manips, d'effacer tout mon travail. Mais nous avons partagé de grands éclats de rire. Et peut-être qu'un jour, dans un moment de déprime, le souvenir de ce bon moment père-fille passé ensemble, ancré dans nos bases de données mémorielles, nous servira, à l'un ou l'autre, à nous décontaminer et à relativiser. Maintenir la corde tendue. L'investissement en temps et en amour dans cette valeur refuge est assez important pour faire une halte sur les grands-parents. Assez de livres abordent le sujet de la grand-parentalité, souvent de façon plutôt drôle, qui montre à quel point les papis et mamies ont des difficultés à endosser ce nouveau rôle qui leur fait prendre un coup de vieux. Ils sont en effet de plus en plus nombreux à faire de la résistance, limitant au maximum les échanges avec leurs petits-enfants pour vivre pleinement, d'aucuns diraient égoïstement, leur vie trépidante de quinquagénaire. Un lien de cause à effet se produit alors. Le ciment de la relation avec les petits-enfants n'ayant jamais durci. Ces derniers rendent un jour, sans calcul, la monnaie de leurs pièces à leurs aînés. Cela se traduit par pas ou peu de visites à leurs grands-parents plus âgés, qui alors, parce qu'ils sont moins fringants et ont une vie sociale moins riche, ressentent un profond manque affectif. Ils se retrouvent isolés, privés de contact humain, ce qui accélère leur décrépitude. Aller, en outre, voir papy et mamie en plein blues en freine plus d'un. Notamment car cela peut flanquer le bourdon. Une étude menée par 3 chercheurs américains à Framingham, vous vous souvenez, cette ville des États-Unis qui est un vrai laboratoire à ciel ouvert, pendant 10 ans sur 5124 habitants âgés de 30 à 74 ans, a révélé que le sentiment d'isolement a tendance à être très contagieux, se transmettant rapidement au cercle de proches et d'amis et au-delà. Avoir un ami ou un proche qui se sent ostracisé, isolé, rejeté, soit physiquement, parce qu'il vit effectivement reclus, soit psychologiquement, parce qu'il ne se sent pas bien, augmente de 40 à 65% le risque de se sentir soi-même isolé. Avoir un ami d'amis qui se sent isolé l'augmente de 14 à 36%, et avec l'ami d'amis d'amis isolé de 6 à 26%. Cette contagion n'arrange rien. Aussi, pour éviter le triste abandon des personnes en maison de retraite, tout le monde gagnerait peut-être à y mettre du sien dès le départ, car le désinvestissement des grands-parents handicape vraiment l'enfant, qui, en feuilletant mentalement l'album de ses pensées-refuges, y trouvera malheureusement des pages blanches. Entretenir un lien à cordes tendues aide les uns et les autres. Souvenez-vous de ce qu'écrivait Éric Decamps à ce sujet. Maintenir un lien émotionnel avec l'autre permet de rassurer l'un parce que l'autre l'assure, et vice-versa. Laisser s'installer des temps d'absence trop longs dans la relation est risqué. Bien entendu, on peut créer des liens affectifs avec d'autres personnes, mais jamais ces liens ne seront aussi forts et renforçants que ceux avec notre famille. Une trop grande culpabilité. Selon Nando Parado, nous autres Européens, il incluait également les Anglo-Saxons, culpabiliserions trop, en regardant dans le rétroviseur nos actes et nos gestes susceptibles d'être blessants ou immoraux. Bien entendu, son intention n'était pas de faire l'apologie du crime, mais plutôt de nous sensibiliser sur le fait que, dans nos ruminations quotidiennes, nous avons tendance à nous accuser de tout, un peu trop vite, avec des conséquences néfastes pour notre équilibre psychique. La culpabilité n'est pas seulement nuisible. C'est une émotion sociale et morale que nous éprouvons lorsque nous pensons avoir commis, ou allons commettre, un acte répréhensible, une violation morale, que nous avons, ou que nous nous apprêtons, à transgresser une norme ou une règle, bien plus intense que le simple embarras. Elle peut être bénéfique, car elle nous permet de sentir les limites à ne pas dépasser en société. En réfléchissant aux conséquences de nos actes, nous grandissons et évoluons. Et c'est aussi en ressentant de la culpabilité que nous cherchons à réparer nos erreurs. Il nous arrive même alors de nous confier aux autres, à qui nous demandons leur avis et comment eux s'y prendraient, ce qui a l'avantage de créer du lien social, contrairement à la honte, émotion voisine, qui nous incite plutôt au déni, à l'évitement et à nous replier sur nous-mêmes. Si nous n'éprouvions pas de culpabilité, nous tracerions notre chemin sans nous soucier un tant soit peu d'autrui et serions du coup moins adaptés socialement à la vie en communauté. Se remémorer les moments du passé où nous avons culpabilisé nous permet aussi, dans le moment présent, d'adopter des comportements sociaux bien meilleurs, en évitant, par exemple, de mentir ou de tricher. Cela s'apparente à la méthode « essai-erreur ». Et il apparaît même que certaines personnes qui culpabilisent avant même d'avoir fait quelque chose de mal représentent aux yeux des autres de meilleurs employés, de meilleurs leaders lorsqu'elles occupent un poste à responsabilité et aussi de meilleurs amis, de meilleurs amants, de meilleurs parents. Puisque pour éviter de blesser ou de décevoir, elles sont beaucoup plus impliquées dans ce qu'elles font, plus à l'écoute, plus compatissantes, plus empathiques et même plus ponctuelles. Ces personnes-là réfléchissent aussi un peu plus aux conséquences de leur comportement avant d'agir. Mais la culpabilité n'a pas que des avantages. Cette émotion, lorsqu'elle est excessive ou persistante, a un coût pour la santé psychique et physique. Elle peut par exemple être source de souffrance individuelle, amenant l'individu à se persuader qu'il est une mauvaise personne, à ressentir de l'insécurité, le poussant vers un conformisme absolu. Les personnes ayant tendance à culpabiliser beaucoup ruminent souvent, ce qui alourdit leur charge mentale, parce qu'elles sont trop impliquées, que ce soit au travail ou dans leur sphère personnelle, elles passent fréquemment à côté de leurs propres besoins personnels et de leurs envies. Un excès de culpabilisation pousse à entrer dans un état dépressif. Un état dépressif qu'aurait connu Alexandra, une trentenaire parisienne qui, pendant 3 ans, s'était fait passer auprès de ses proches, de son employeur et des médias pour une victime des attentats du 13 novembre. Cet habitué du Carillon, l'un des 2 bars qui furent pris pour cible par les terroristes, aurait culpabilisé de ne pas avoir été sur place ce jour-là. Après la fusillade, le syndrome du survivant aurait commencé à la ronger de l'intérieur, au point que pour rembourser cette dette psychique qu'elle se serait auto-inoculée, il lui aurait fallu absolument endosser le rôle de victime, ressentir ce que pouvaient ressentir ceux qui avaient connu l'atrocité. Du « j'aurais dû y être » à « j'y étais », son cerveau, sous influence de la culpabilité, aurait pris le mauvais raccourci mental. Cette logique émotionnelle l'aurait emprisonné alors dans un mensonge qui ne cessait d'enfler. Ainsi se faisait-elle passer pour la porte-parole des victimes qu'elle croisait régulièrement lors de réunions intimistes, poussant le vice jusqu'à se faire tatouer sur le bras la devise de la ville de Paris « Fluctuat nec mergitur ». La culpabilité pourrait aussi être ressentie collectivement, à l'échelle d'une population tout entière, à en croire Aleida Hassmann, professeure à l'université de Constance, et qui s'intéresse, d'un point de vue anthropologique, à la mémoire culturelle et l'oubli. Il est vrai que j'ai souvent perçu, ce qui m'a toujours étonné, ce sentiment chez des amis d'outre-Rhin, même si, comme moi, ils n'ont jamais connu la guerre. Certains diront qu'il s'agit là d'une construction de mon imagination, moi qui suis alsacien et ai grandi avec des histoires de guerre plein la tête. Mais voici ce que disait l'écrivain allemand Bernhard Schlink, il y a 12 ans, dans une interview réalisée par Florence Noiville pour le journal Le Monde. Il lui confiait avoir compris ce mécanisme de transfert de la culpabilité d'une génération à une autre en travaillant sur des sociétés primitives. Dans ces cultures premières, lorsqu'un des membres d'une tribu assassinait un membre d'une autre tribu, sa tribu avait le choix entre l'exclure et le garder parmi les siens. En le gardant, elle assumait son crime. La faute, alors, rejaillissait sur la tribu entière. De la même manière, en Allemagne, la deuxième génération a décidé non pas de rejeter, mais d'intégrer la précédente dans son cercle de solidarité. Les pères, les oncles, ont été acceptés en tant qu'hommes politiques, magistrats, professeurs. Ce faisant, les fils ont implicitement endossé la faute des pères. Je crois à l'idée de culpabilité collective lorsque la faute de celui qui a commis un crime devient aussi la faute de celui qui ne l'a pas commis. Il poursuivait. L'expression de cette honte vécue dans leur chair est enfouie et souvent refoulée, comme toute forme de véritable culpabilité. La culpabilité allemande est sans doute née le jour où le peuple allemand découvrit avec effroi, à la télé, les atrocités commises par les nazis, selon l'égyptologue Aleida Hassmann, pour qui aussi le traumatisme allemand connaît un effet durable. La survivance de cette culpabilité collective s'explique en partie par des phénomènes épigénétiques, renforcés par la diffusion à la télévision et sur le net, en continu, d'images et de vidéos de camps de concentration qui obligent le spectateur à ne pas oublier. Un feu d'artifice dans notre cerveau. Dans le cerveau humain, les neuroscientifiques ont géolocalisé le circuit de la culpabilité. Cette émotion recruterait, selon les neuroscientifiques, un grand nombre de régions qui favorisent la prise de perspective, autrement dit la capacité de comprendre le point de vue qui peut différer du vôtre d'une autre personne, le jugement moral, l'empathie et le traitement d'émotions négatives. Ainsi assiste-t-il, grâce à l'imagerie médicale, à un spectacle digne des plus grands feux d'artifice quand l'un de leurs sujets, placé sous IRM, éprouvent de la culpabilité. S'enflamme sous leurs yeux l'amygdale limbique, le cortex préfrontal ventromédian, le cortex orbitofrontal médian et latéral, le cortex singulaire antérieur, le gyrus frontal inférieur, l'insula antérieure, la jonction temporo-pariétale, le pôle temporal, le lobe temporal antérieur, le sillon temporal supérieur, le précuneus, le cortex rétrosplénial, le gyrus fusiforme. Ce spectacle, sur un écran d'ordinateur, est presque aussi beau qu'une aurore boréale. Plus précisément, des chercheurs de l'Université du Wisconsin ont observé, à l'aide de l'IRMF et de l'IRM de diffusion, les cerveaux de 40 détenus âgés de moins de 45 ans ayant commis des crimes à peu de choses près similaires, 20 ayant été diagnostiqués comme étant des psychopathes, dont j'ai déjà évoqué le manque de relief émotionnel, les 20 autres comme non-psychopathes. Les résultats ont montré que chez les psychopathes, la connectivité structurelle et fonctionnelle entre le cortex préfrontal ventromédian, une partie du cerveau impliquée dans la gestion de la culpabilité et de l'empathie, et l'amygdale, était réduite. En gros, ces deux zones du cerveau ne semblent pas communiquer comme elles le devraient. Ce qui ne signifie pas que les psychopathes ne ressentent pas de la culpabilité ou de l'empathie, mais que simplement, ce mode-là n'est pas chez eux configuré par défaut. Ainsi peut-on se rassurer, chaque fois que l'on culpabilise, de ne pas être un Hannibal Lecter en puissance. Mais le problème, c'est que nous le faisons trop, de culpabiliser. Que ce soit sur nos kilos en trop, sur un mauvais choix, sur notre paresse à réviser nos examens, sur un achat compulsif, un mail trop vengeur, une énième séance de gym loupée, sur un téléchargement de musique illégale. Oups, dans ce cas précis, le pirate ne ressent pas une once de culpabilité, d'après la science. Etc. Pourquoi culpabilisons-nous? Ce qui explique en partie notre appétence pour s'accuser de tout, c'est surtout que lorsque nous ressentons ce sentiment de culpabilité, aussi fou que cela puisse paraître, cela active dans notre cerveau certaines structures comme les noyaux accumbens, qui jouent un rôle central dans le circuit de la récompense et de l'accoutumance. Et c'est là que cela devient intéressant. Souvent, nous nous adonnons à des plaisirs coupables. Autrement dit, nous faisons des choses qui sont autant moralement mauvaises que neurologiquement bonnes. Depuis la visite cachée à sa maîtresse ou à son amante, à la cuillerée de Nutella de trop sur sa tartine le matin. Les choses qui nous font le plus envie sont aussi souvent celles qui donnent le plus de culpabilité. En cédant à ces plaisirs coupables, notre corps libère de la dopamine, une molécule biochimique qui cherche à communiquer le plaisir dans différentes parties du cerveau, comme les noyaux accumbens, donc. Quand la dopamine arrive au centre de récompense, ce dernier prend note du fait que ce que nous sommes en train de faire ou penser provoque ces sensations plaisantes et gratifiantes. Culpabilité et plaisir sont alors corrélés dans notre esprit. Et dupés chimiquement par notre cerveau, nous cherchons du coup à renouveler de telles expériences. Petit à petit, nous devenons littéralement addicts à certains comportements coupables à cause du plaisir qui leur est associé. Un plaisir intensifié et prolongé par le sentiment de culpabilité lui-même. Un cercle vicieux. Le virus, une fois logé en nous, il sera très difficile de le combattre. Plus nous consommons de la culpabilité, on parlera ici d'auto-contagion émotionnelle, plus nous en devenons dépendants, et plus nous risquons d'expérimenter les effets secondaires évoqués précédemment. Pensez aux récits ou témoignages d'alcooliques. Leur souffrance, comparée au plaisir chimique tout éphémère de siroter un verre d'alcool, est immense. Consommez avec excès de la culpabilité, et vous vous forgerez en outre très rapidement une mauvaise image de vous-même. Un terreau fertile à la dépression et aux pensées glauques. Ainsi, les nombreuses expériences menées par le célèbre chercheur Dan Ariely, de l'université de Duke, lui font dire aujourd'hui qu'une personne émotionnellement polluée de l'intérieur par de la culpabilité ne sera pas encline à bien se comporter dans la vie. Persuadée que sa vraie nature est mauvaise, elle fera de plus en plus de mal autour d'elle. Pas de quoi dramatiser cependant. Ce n'est pas parce que vous avez mal parlé à un collègue alors que vous étiez contrarié qu'il faut vous infliger des semaines ou des mois de souffrance émotionnelle et d'autoflagellation. Certes, vous n'auriez peut-être pas dû agir de la sorte, mais, comme dit précédemment, vous avez tout à apprendre de ce type de situation. Et vous n'avez pas commis de meurtre. Il est aussi important de garder en tête, froide, une échelle de gravité, pour pouvoir faire la part des choses. Le problème avec la culpabilité, c'est qu'elle vous fait vous sentir mal par rapport à qui vous êtes, contrairement au remords qui, lui, induit une sensation désagréable, mais par rapport cette fois-ci à ce que vous avez fait. Là est toute la différence. Mais souvenez-vous, l'émotion n'est pas vous. Elle n'est pas un trait de votre personnalité, juste une information de passage. Ayez plus de compassion envers vous-même, apprenez à vous pardonner, et surtout, parlez de ce qui cloche à des personnes de confiance. La confession a du bon. Cela aura pour effet d'atténuer ce ressenti qui peut vite enfler. En bref, retenez ici que pour éviter de se laisser contaminer par des émotions destructrices, il est recommandé de méditer. Apprenons, dans nos vies à 1000 à l'heure, à regarder passer nos pensées et nos émotions négatives, comme nous regarderions des nuages traverser le ciel. Tentons aussi de réintroduire dans nos vies de tous les jours une espèce en voie de disparition, le courage, pour être maître de notre destin, et ne pas toujours être le contaminé, celui qui subit. Enfin, investissons dans une valeur refuge, la famille, avançons les uns les autres à cordes tendues, et décidons de moins culpabiliser dans cette société qui nous y incite trop souvent.